Depuis le début de l'année, nous étudions le livre d'Ésaïe. C'est un livre de l'Ancien Testament, un gros livre de l'Ancien Testament avec ses 66 chapitres. Mais nous faisons une pause en ce moment pour explorer cette réalité que l'Église est une famille. Dès l'instant que nous partageons le même Père, puisque les chrétiens prient notre Père qui est aux cieux, ou nous récitons le credo comme nous venons de le chanter, Dieu notre Père, ça fait de nous des frères et sœurs de la même famille. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous trouvons, les chrétiens, rapidement après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils ont pris l'habitude de s'appeler frères, dans leurs rencontres, dans leurs réunions, pour refléter cette réalité qu'ils sont une famille. Alors ici à Le Béthiem, nous ne voulons pas que ce soit juste une idée abstraite théologique, mais une réalité quotidienne, d'autant plus que nous sommes de plus en plus nombreux. Alors ce sont les enfants de mon collègue Vincent qui ont appris à mes enfants un peu leur devise, famille nombreuse, famille heureuse, n'est-ce pas? Famille nombreuse, famille heureuse. Mais apparemment il faut se le dire des fois, parce que pas toujours facile. Famille nombreuse, famille heureuse, oui, je le crois. Eh bien, c'est ce que nous voulons vivre en tant que BTM. Pour bien vivre cette famille, ces relations fraternelles authentiques, j'aimerais qu'on regarde la première famille de la Bible. Les premières relations fraternelles, la première fratrie. Qui était la première fratrie dans la Bible? Qui étaient les premiers frères dans la Bible? Comment se sont passées les toutes premières relations fraternelles? Eh bien, je vous invite à chercher avec moi Genèse chapitre 4, la première famille de la Bible, les premiers frères de la Bible, et nous allons voir comment ces relations fraternelles se sont déroulées. Donc, lisons Genèse chapitre 4, versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Cain, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Voici donc les premières relations fraternelles de la Bible, pas très glorieux. Les choses se sont vite dégradées à la sortie d'Éden. Cette première famille de la Bible vit déjà une catastrophe. Et c'est vrai que dans ce monde déchu, les relations fraternelles, les relations familiales tendent vers le mal. Vous-même pouvez avoir vécu, vous connaissez des personnes qui vivent des relations familiales très difficiles. Alors que la famille devrait être les relations qu'on réussisse le mieux, c'est souvent les relations qui deviennent les plus compliquées. Mais dans l'Église, dans cette famille spirituelle que nous formons, nous pouvons renverser la tendance. Et c'est vraiment un des grands messages du Nouveau Testament, le grand commandement du Nouveau Testament, aimez-vous les uns les autres comme des frères. Et comme ça a été lu ce matin par Jean-Philippe, pendant les chants, dans son épître, cette première épître de Jean, vous pouvez garder ce texte un peu sous la main aussi, ce matin, Jean veut développer les relations fraternelles, l'amour fraternel dans l'Église. Et en 1 Jean chapitre 3 verset 12, ça a été lu, Jean utilise l'exemple de Caïn pour nous aider à vivre les relations fraternelles dans l'Église. Et il dit expressément, il dit, ne ressemblez pas à Caïn, n'imitez pas Caïn. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, ne pas ressembler à Caïn. Déjà, c'est étonnant qu'ils disent à l'Église, à des chrétiens, ne ressemblez pas à Caïn, qui tua son frère. Parce que Caïn, c'est vraiment un des pires dans la Bible. Tout le monde l'associe à Caïn, au crime le plus horrible. Caïn, c'est l'archétype du méchant dans la Bible. Un peu comme Judas, qui a trahi Jésus. Caïn, c'est ce qu'il a fait, c'était prémédité, c'était un meurtre. En plus, c'était le meurtre de son frère. Il n'y a pas pire. Alors, quelqu'un pourrait dire à Jean, oui, il dit aux chrétiens, ne pas ressembler à Caïn, ne pas tuer son frère. Bon, il met la barre assez bas. Tant que je n'ai pas tué un autre chrétien de mon assemblée, je suis bon chrétien. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire en utilisant l'exemple de Caïn? Non. Évidemment, vous voyez bien que quand il dit ne ressemblez pas à Caïn, c'est pas un minimum d'amour auquel il nous appelle. L'amour fraternel dans l'Église va plus loin que de ne pas tuer son frère, littéralement. Et on le sait que Jean pense plus ça, parce que juste après, il dit ne ressemblez pas à Caïn, il pose la question, pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? Encore 1 Jean chapitre 3, verset 12, il dit ne pas ressembler à Caïn. Après, il dit, mais pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? Et en posant la question, il nous invite à réfléchir sur les mécanismes, les pensées, les choses qui ont amené Caïn jusqu'à ce geste. Mais ces choses-là, c'est ce qui se passe dans le cœur, dans nos pensées, qui vont nous aider à nous-mêmes vivre l'amour fraternel. Alors, ce matin, apprenons l'amour fraternel par voie du contraste. C'est-à-dire, nous allons, en tant que chrétiens, nous voulons faire tout le contraire de Caïn. Pas juste le minimum de pas tuer son frère, mais nous voulons faire tout le contraire de Caïn. Il me semble que c'est à quoi Jean nous appelle. Alors, en regardant Caïn et sa relation avec Abel, nous allons apprendre comment vivre les bonnes relations fraternelles. Tout d'abord, les bonnes relations fraternelles dépendent de notre relation avec Dieu. J'aimerais vous montrer ça dans l'histoire de Caïn et Abel. Avant que Caïn avait un problème avec son frère Abel, Caïn avait un problème avec Dieu. Et ça, c'est une grande vérité que vous pouvez retenir ce matin. L'histoire de Caïn et Abel, il faut le dire, c'est une des meilleures histoires jamais racontées. Pas dans la beauté des actions. C'est vrai que l'histoire termine tristement. Mais une fois que tu l'as lu, tu ne l'oublies jamais. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Elle a cette manière de trier l'humanité, ces deux frères, nés de la même famille, mais qui suivent des voies très différentes. Cette histoire trie l'humanité entre la race qui plaise à Dieu, la race des Abel, et puis la race des Caïn, ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Elle trie l'humanité entre ceux qui poursuivent des bonnes relations, qui construisent les relations humaines, familiales, fraternelles, et ceux qui les détruisent, les pourrissent. Mais nous voulons savoir ce matin pourquoi ça s'est mal passé entre Caïn et Abel, en tout cas Caïn envers Abel. Avant d'avoir un problème avec Abel, je dis que Caïn avait un problème avec Dieu. Le verset 2 commence à les décrire, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est vrai qu'il y a une rivalité ancienne entre les éleveurs et les agriculteurs. Les éleveurs veulent des champs ouverts pour que les animaux broutent ce qui pousse. Les agriculteurs, ils veulent les champs fermés pour que les animaux ne broutent pas ce qui pousse. Alors, des fois, les éleveurs et les agriculteurs se disputent un peu. Mais le problème ne vient pas de là. D'ailleurs, c'est le rappel, comme tout parent le sait, que même dans la même fratrie, des enfants peuvent suivre des voies différentes. Et c'est même très bien. Si vous êtes parent, vous savez que vos enfants, les mêmes gènes, la même éducation, le même foyer, peuvent être très très différents les uns des autres. Effectivement, Abel et Caïn n'avaient pas la même vocation. Mais le problème ne vient pas de là. Un métier n'est pas plus noble qu'un autre. Dans la Bible, agriculteur, c'est très bien. Berger, c'est très bien. Dans une fratrie, comme dans une église, c'est bien de rappeler que Dieu appelle différentes personnes à différentes choses, différentes vocations, différentes situations dans la vie. C'est le cas si vous regardez autour de vous. Et c'est une bonne chose, c'est une beauté. On ne veut pas que des bergers, on ne veut pas que des agriculteurs. Donc, les relations fraternelles, ce n'est pas cette différence-là qui pose problème. Non, les relations fraternelles entre les deux se sont dégradées le jour où les deux ont offert cette offrande à Dieu, d'après le texte, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, et Abel, de son côté, en fit une aussi. Mais la chose que le texte dit que Dieu a porté un regard favorable sur celle d'Abel et pas sur l'offrande de Caïn. On ne sait pas exactement à quoi ressemble ce regard favorable. Est-ce que Abel était béni davantage par la suite ou, ça ne dit pas exactement comment s'exprimait son regard favorable de Dieu, mais Caïn savait que la sienne était rejetée. Mais maintenant, regardez le texte, Genèse 4, et dites-moi pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur celle d'Abel et pas celle de Caïn. Eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pourquoi Dieu a favorisé celle d'Abel et pas celle de Caïn. Le constat, c'est que tous les deux ont fait déjà une offrande à l'Éternel. Ce n'est pas comme si Caïn avait fait une offrande à une idole et Abel avait fait une offrande à l'Éternel. Ça on peut comprendre. Mais non, c'est les deux offrent une offrande à l'Éternel. Ce n'est pas comme si Caïn était un voyou qui faisait la drogue et qui a fait sa vie. Et puis Abel, c'était l'enfant tout sage à l'église. Non, ici, tous les deux ont une pratique religieuse. Si c'était à notre époque, tous les deux fréquenteraient la même église. Alors certains pensent que l'offrande de Caïn n'était pas agréée par Dieu parce que ce n'était pas un sacrifice sanglant. Et c'est vrai que plus tard dans la loi... c'est vrai qu'il faut l'expier, il faut l'effusion du sang pour pardonner les péchés, ce qui explique pourquoi Christ a dû mourir aussi sur la croix. Mais le texte nous dit que tous les deux ont fait une offrande à Dieu. Il n'est pas question qu'il fallait que ça soit une holocauste ou une sacrifice d'expiation. Plus tard dans la loi de Moïse, dans ce culte juif, on autorise clairement les deux sortes d'offrandes, les offrandes venant des fruits de la terre, comme les offrandes venant du troupeau. Donc on ne peut pas... Caïn et Abel n'avaient pas encore la loi de Moïse, pour réfléchir dans ce sens, tous les deux, le texte dit qu'ils ont chacun offert une offrande à Dieu. Aujourd'hui, on convertit tout en euros. Les offrandes ce matin, personne n'a mis une brebis et des carottes dans le panier ce matin. Mais à l'époque, le salaire d'un agriculteur, c'est le fruit de la terre. Le salaire d'un éleveur, c'est les animaux. Donc on comprend que chacun peut offrir de ses biens, de son salaire. Alors qu'est-ce qui distingue? Est-ce que nous avons quelque chose qui pourrait les distinguer? Eh bien, on a un petit détail. Et quand le texte est déjà sobre en détail, il faut un peu sauter sur les petits détails. Mais ça dit en verset 4, que verset 3 et 4, Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, Caïn offre une partie de sa récolte, mais Abel, ça dit qu'il donne des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La graisse, c'est la meilleure partie. Alors là, il y a une petite différence, semble-t-il. C'est quoi la différence? Eh bien, vous savez que pour les agriculteurs et les éleveurs, l'avenir est incertain. Chaque année, on ne sait pas exactement quelle sera la récolte. Ce sera une bonne année ou une année difficile. Les agriculteurs et les éleveurs, ils n'ont pas un CDI avec un salaire mensuel fixe, comme beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Alors un éleveur, un agriculteur, il réfléchit, est-ce que cette année, est-ce que le climat, est-ce que la maladie, est-ce que tout va... Comment les choses vont se passer? Donc un éleveur, il peut dire à la fin de la saison, il peut dire, voilà, j'ai eu 10, mes troupeaux, mes brebis ont mis bas, et j'ai eu 10 agneaux cette année. Alors très bien, je donne un à Dieu, ou je donne deux, si je vais être très généreux. Donc il peut fonctionner comme ça, ou bien... S'il donne des premiers-nés de son troupeau, Il dit, ok, je donne un à Dieu. Et que cette année-là, le troupeau ne... Il n'y a que deux brebis. Là, ils viennent de donner 50%. Et ça, c'est autre chose que la dîme, par exemple. Et là, on dit, oula. Mais il ne peut pas savoir l'avance. Si on donne des premiers-nés, si on donne des premières récoltes, c'est que ce n'est pas calculé. C'est qu'il y a un abondant, il y a un lâcher-prise, il y a une confiance totale en Dieu et dans ses promesses et son secours. Et la Bible appelle ça la foi authentique. La Bible encourage ce genre de relation avec Dieu, pas une relation calculée. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, en hébreu, va dire, dans l'Épître aux Hébreux, il va dire qu'Abel avait fait son offrande avec foi, contrairement à Cain. Et ça nous étonne un peu, parce que Cain, est-ce qu'il n'avait pas la foi en Dieu? Il a une foi en Dieu, visiblement il croit que Dieu existe, puisqu'il lui fait une offrande. Il va même lui parler, il y a un dialogue dans le texte que nous avons lu. Alors Cain croit en Dieu, mais c'est pas la nature de la foi qu'on va trouver chez Abel, où il y a cet abondant, cette confiance totale, cet amour pour Dieu qui est prêt à donner des premiers-nés de son troupeau, même sans savoir ce que l'avenir contient. Et là, on commence à voir les différences entre Cain et Abel, entre leurs attitudes envers Dieu. D'ailleurs, dans toute la Bible, quelqu'un a remarqué qu'il n'y a que deux raisons à faire une offrande à Dieu. Il n'y a que deux raisons à faire une offrande à Dieu. Soit c'est par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'on a apprécié ses dons, son salut, par grâce. Soit c'est pour obtenir quelque chose en retour, pour que Dieu nous doit quelque chose. D'ailleurs, les êtres humains, on peut fonctionner comme ça aussi. Hein. Il y a deux raisons à donner un cadeau qui est coûteux à quelqu'un d'autre. Vous pouvez le donner vraiment parce que vous aimez cette personne, ou vous pouvez le donner parce que vous avez quelque chose en tête que la personne pourrait vous rendre, ou que vous pourrez bénéficier d'un regard des autres. Et là, c'est plus calculé. C'est pas complètement désintéressé. Et la Bible va montrer dès le premier chapitre que c'est ces deux voies-là d'aborder Dieu. Et c'est la différence entre la plupart des religions et la foi chrétienne, l'Évangile. L'Évangile nous pousse à être reconnaissants pour le salut que Dieu nous a déjà donné. Et tout le reste, nos vies, comme une offrande, et par amour, par reconnaissance. Mais toutes les autres, l'autre système, c'est un peu plus calculateur. C'est de dire, voilà, si je donne ça, Dieu peut me bénir en retour. Ou si je donne ça, je peux mériter, il me doit. Et c'est vrai que déjà, à la fin de Genèse chapitre 3, Dieu avait promis, après la chute, il avait quand même fait cette promesse à Ève, qu'un jour, le serpent sera écrasé. Un jour, il y aura promesse d'une délivrance. Donc Cain et Abel pouvaient savoir ces choses. Ce qui peut expliquer qu'Abel, par une offrande sincère, authentique, reconnaissance pour le secours, la promesse du salut de Dieu, il offre son offrande. Alors que Cain, c'est dans une autre démarche. Et on voit que Cain l'a fait dans cette attitude, dans cette démarche-là, parce que quand Dieu n'a pas agréé son offrande, il se fâche, il s'irrite, il se déprime. On commence à voir ses attitudes amères dans son cœur naître. Quoi? C'est pas juste ça. Mon tas de légumes était tout aussi bien que son agneau. Et là, je ne supporte pas que lui soit béni et pas moi. Moi, je le mérite autant que lui. Eh bien oui, mais si on parle comme ça à Dieu, c'est qu'on a une toute autre conception de Dieu que le Dieu de la Bible, ce Dieu de grâce, qu'on vient à lui avec reconnaissance, avec amour. Et ce genre de comportement vient quand on pense que Dieu nous doit quelque chose. Et là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais et ça vient d'un mauvais cœur quand on veut négocier avec Dieu. Parce que dans le texte de 1 Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean pose la question, pourquoi Cain a-t-il tué son frère? Et la réponse que donne Jean, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il dit pas que le fait de tuer son frère était une œuvre mauvaise, ce qui est certes le cas. Mais il a dit qu'il a tué à cause de ses mauvaises œuvres. Mais vous regardez dans le texte, où sont les mauvaises œuvres de Caïn? Encore, c'est pas la délinquance. Il s'est pas mis avec les voyous du quartier. Les mauvaises œuvres de Caïn, c'était déjà dans le cœur, dans ses attitudes, dans sa manière d'aborder une relation avec Dieu. Et là, on commence à voir la clé aussi pour les bonnes relations fraternelles. Notre relation verticale avec Dieu va toujours affecter notre relation horizontale avec les autres. Si je suis contrarié par ce qu'un frère m'a fait, je mérite mieux, moi. Ah, peut-être on a oublié ce Dieu de grâce, ce Dieu de bonté, qui nous donne tout, pas par mérite, mais par grâce. Et j'ai trouvé ça dans un commentaire intéressant. Un commentaire disait, dans ce qui s'est passé dans Genèse 4, nous avons l'explication de chaque acte de persécution, chaque division d'église, chaque commérage, chaque jalousie. Nous avons l'explication dans Genèse 4 de chacune de ces choses. J'aime bien, c'est mon frère David, mon frère dans la chair, qui raconte cette histoire. Peut-être ici, même il l'a fait. Mais j'aime bien cette histoire. Un jour, il prenait l'avion et l'avion était plein. Donc, on lui a proposé une place en première classe pour gérer le trop-plein de l'avion. Alors, il s'est trouvé, lui, un petit jeune comme ça, qui pensait voyager normal, classe économie. Il se retrouvait en première classe sur un vol international. Alors là, c'était la bénédiction, c'était la grâce, c'était merveilleux. Il profitait de tout, on lui propose du champagne, c'est des repas, c'est le rêve. Mais donc lui, il vivait ça avec vraiment beaucoup de reconnaissance. Mais il voyait autour de lui les autres clients, c'est vrai qu'eux, ils avaient payé leur place. Donc il pouvait être un peu plus exigeant, quelques plaintes des fois. Ah tiens, ce repas, la nourriture d'avion, c'est pas top. Et il dit, là, il y a deux manières de vivre cette expérience. L'un, mon frère, voit que c'est par grâce, c'est un don. Et donc, il trouve tout merveilleux. Les autres qui avaient acheté leur place, ils peuvent se plaindre. Alors, dans l'église, est-ce que c'est une grâce que nous y sommes? Ou est-ce que vous avez acheté votre place? Et si oui, vous avez droit à vous plaindre de l'autre, de un tel. Le service n'est pas top ce matin. Mais si c'est une grâce, j'aurais pu être ailleurs peut-être, j'aurais pu ne pas m'attirer à lui. Et là, si le café n'est pas parfaitement chaud, vous n'allez pas trop vous plaindre. Donc, les bonnes relations dépendent déjà de notre relation avec Dieu. Si vous avez un problème avec votre frère, revenez à ce Dieu de grâce. Soignez cette relation-là et vous allez voir. Aura une autre attitude vers votre frère. Les bonnes relations fraternelles nécessitent la lutte contre notre propre péché. Maintenant, comment ne pas ressembler à Caïn? Eh bien, la suite, on a encore une chose à ne pas faire. Parce que même après cet épisode de l'offrande qui s'est mal passé pour Caïn, Dieu lui offre une occasion de corriger le tir. Dieu n'est pas fâché outre mesure. Il dit, Caïn, écoute, t'as mal fait. Il y avait une mauvaise attitude. Maintenant, relève-toi, ressaisis-toi et agis bien. Verset 6 et 7. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors ici, Dieu donne une leçon à Caïn sur le péché, la nature du mal et du péché, comment le péché fonctionne dans notre vie, et comment le vaincre. Et je trouve intéressant, Dieu utilise une image très forte. Dieu décrit le péché comme une bête féroce, un tigre, un monstre, un dragon, qui couche à sa porte et qui veut entrer. Vous voyez ça en verset 7, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Vous savez, dans les contes de fées, il y a souvent un loup qui cherche à entrer dans la maison. Alors, il se déguise, il se cache, il essaie par tous les moyens d'entrer dans la maison pour dévorer les cochons ou la petite fille. Mais tant qu'on ne lui ouvre pas, on est en sécurité. Et c'est ce que Dieu dit à Cain. Il dit, attention Cain, là, tu es mal parti, mais tu as une chance à prendre le dessus. Le péché va vouloir te contrôler. Le péché va... Et si tu lui donnes une place, c'est comme une bête qui va sauter. Il y avait des petits chats très mignons dans notre quartier, tout ça, et miou à la porte, tout ça. Alors, c'est vrai, la tendance, ok, ils peuvent entrer une fois, mais tu les laisses entrer une fois, la prochaine fois, c'est plus difficile, allez, ils entrent tout seuls, tranquillement. Alors, et puis ça grandit, et puis, oui. C'est pareil, je peux accueillir un monstre, un dragon bébé, c'est tout mignon, mais si je le nourris et il grandit, après, il va me dévorer. Ça, c'est l'image du péché ici. Est-ce que vous nourrissez le péché dans votre vie ou est-ce que vous fermez la porte? Il appelle Cain à fermer la porte. Et certains péchés, je parle notamment de l'amertume, la jalousie, l'envie, la haine, la convoitise, ces péchés du cœur, de pensée, ben, ils agissent vraiment comme ça. Ils sont couchés là. Si on les donne place, si on les nourrit, eh bien, ils finissent par nous dévorer. Alors, comment faire, nous, tout le contraire de Cain, pour construire des relations fraternelles? Parce que, encore, le fait que Cain n'a pas dominé ce péché de la jalousie, de l'envie, de l'amertume, c'est ça qui l'a poussé à tuer son frère. Alors, comment nous peut faire tout le contraire? Eh bien, je dis ce matin qu'une des meilleures choses que je peux faire pour mon frère, pour ma sœur, c'est de lutter contre mon propre péché et mes propres défauts. D'ailleurs, c'est encore l'image ici, il dit « le péché couche à ta porte ». Pourquoi un bête sauvage, un tigre, couche avant de sauter sur sa proie? Eh bien, un tigre est couché avant de sauter, c'est pour rester caché. Ça fait partie de sa stratégie. Oui, c'est pour prendre la force dans le saut, mais aussi c'est rester bas et invisible dans l'herbe un peu haute. Et, ben, être couché comme ça avant de sauter. Et là, c'est... C'est vrai pour le péché, notre propre péché parfois nous est invisible. On voit bien celui qui se couche à la porte du voisin, mais difficile à voir celui qui couche à notre porte. Dieu n'a pas dit à Cain, écoute, si tu veux t'entendre avec Abel, va le trouver et dénonce tous ses défauts, toutes ses imperfections. Et après, peut-être, vous allez pouvoir construire des relations fraternelles ensemble. Non, il a dit, si tu veux être un bon frère, domine sur les tiens. Toi, agis bien. Et je crois que, voilà, c'est en luttant contre mon propre péché, mes propres défauts, que je peux aussi construire des relations fraternelles bénéfiques et aimantes. Et puis, j'aimerais terminer en disant que les relations fraternelles aussi appellent au sacrifice par amour. Là aussi, on est dans tout le contraire de Cain. On a vu que Cain, tout commence avec une mauvaise relation avec Dieu, une mauvaise conception de Dieu. Ensuite, lui-même n'a pas voulu lutter contre son propre péché. Et tout ça l'a conduit à nourrir une haine pour Abel, alors qu'Abel ne lui a rien fait. Abel, un jour, a offert un sacrifice, une offrande à Dieu, qui a été agréée par Dieu. Les Abels, ils sont toujours gentils avec les Cains. C'est les Cains qui ne supportent pas les Abels, parce que ça les renvoie à leur propre hypocrisie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien là, nous avons verset 8. Cain adressait la parole à son frère Abel, dans certaines traductions. Il dit, allons dans les champs. Et comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a versé son sang. Il y a toute cette image du sang qui revient, ce sang qui crie de la terre, qui crie pour justice. Où est justice dans cette histoire? Et Dieu qui dit, voilà, la terre a bu, une image forte pour un agriculteur, la terre a bu le sang de ton frère. Mais ce n'était pas pour arroser la terre, c'était pour faire un crime. Alors, si nous apprenons les relations fraternelles par voie de contraste, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi le contraire du geste de Cain? Dans un sens, c'est ce que Abel a fait. Abel, il a souffert innocemment. Lui, il a juste vécu par la foi et c'est pour ça que son frère ne le supportait pas. Cain a exprimé un jour sa foi en Dieu, sa foi dans sa future promesse de salut, et c'est ce que Cain n'a pas supporté. Donc parfois nous sommes appelés à tout simplement supporter, souffrir, rester innocent. Si quelqu'un nous fait un tort, un mal, eh ben, la voie d'Abel, c'est de souffrir en silence, des fois. Mais si la Bible s'arrêtait là, juste cette histoire de Cain et Abel, on pourrait penser, mince, quand même, dans l'histoire, le mal remporte sur le bien. C'est Cain qui vit à la fin de l'histoire, c'est Abel qui meurt. Le mal semble remporter sur le bien. Alors, est-ce que c'est comme ça que nous... C'est la conclusion que nous devons tirer. Est-ce qu'il faut dire, ben, finalement, les Cains vont toujours détruire les Abel et... Donc, je ne sais pas si c'est vaut mieux être un Cain ou un Abel, après tout. Mais non, parce que nous savons, si nous continuons à lire la Bible, c'est que Abel devient, lui, une image de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament utilise comme ça. Et Abel devient en quelque sorte le premier martyr de la foi, mais aussi d'autres prophètes, jusqu'à Zacharie, dit Jésus un jour. Donc, de Abel à Zacharie, c'est un peu le A à Z des prophètes, souvent ont été persécutés par des injustes. Mais Jésus lui-même va suivre la même voie. De la même manière qu'Abel bénéficiait du regard favorable de Dieu, ben Jésus encore plus, il était le fils bien-aimé de Dieu. Et il avait le regard favorable de son Père dans tout ce qu'il faisait. Et c'est ce regard favorable, c'est cette bénédiction, c'est cette manière de vivre qui a provoqué tant de jalousie et de haine dans les autorités religieuses de son époque qui l'ont poussé à le tuer de la même manière que Cain a tué Abel, a versé son sang. Et c'est là où Christ vient, l'ultime contraste de Cain. Au lieu de prendre sa vie, au lieu de défendre ses lois, il donne sa vie, il verse son propre sang pour ses frères, pour sauver la vie de ses frères. Cain avait versé le sang de son frère par haine, par jalousie, par envie, par incrédulité. Mais Jésus donne du sien pour notre bien. C'était l'action que nous avons donnée à tout ce culte ce matin, 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est tout le contraire de Cain. Nous avons connu l'amour en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et comme ça a été dit, la preuve que nous avons compris l'amour de Jésus pour nous, c'est que nous vivons l'amour fraternel au sein de l'Église, c'est que nous aimons les frères. Et vous avez bien vu comme la haine a pu pousser Cain à l'action. La haine pousse à l'action, tout comme l'amour pousse à l'action. Et Jean nous appelle ça aussi, n'aimons pas que en parole, en langue et en parole, mais aimons en action et en vérité. Alors je termine avec cette question pour nous tous. Quelles actions pouvons-nous faire aujourd'hui, cette semaine, cette année, pour aimer nos frères et sœurs, pour bénéficier de leur amour pour nous aussi? Quelles actions pouvons-nous faire? C'est peut-être un service rendu, c'est peut-être une parole encourageante, c'est peut-être de s'impliquer dans une cellule où nous pouvons encore nous aimer les uns les autres. Quand Jean dit « n'aimons pas en parole ou en langue », ça ne veut pas dire qu'il faut jamais ouvrir la bouche. L'idée, c'est des paroles vides de sens, qui ne sont pas soutenues derrière par les actions. Donc, nous voulons aimer par nos paroles, mais aussi aimer par nos actions, toujours dans la vérité. Certaines actions n'ont pas la vérité avec eux, donc nous voulons, en prenant la vérité de la Bible, en prenant la vérité de ce que Dieu est, de ce qu'est le péché, tout ça, c'est cette vérité est là, mais nous pouvons aimer en action et en vérité. Donc, pour ne pas ressembler à Cain ce matin, pour vivre les bonnes relations fraternelles, il faut soigner notre relation avec ce Dieu de grâce et rappeler que nous avons tout par lui. Et déjà, ça donne un autre regard sur les frères. Nous devons lutter contre notre propre péché. C'est plus facile de dénoncer ceux des autres, mais quand je lutte contre mon péché, je trouve que les relations fraternelles sont plus faciles. Et je dois aussi faire des sacrifices par amour pour le bien des autres, tout comme Christ a fait pour nous. Et ainsi, nous allons pouvoir vivre l'Église comme une famille, ces relations fraternelles précieuses. Prions pour terminer. Seigneur, nous te louons en effet pour ce miracle de ta grâce qui fait que nous pouvons être ensemble, nous pouvons être une famille avec tant de différences, tant de parcours différents, tant d'expériences différentes. Mais tu nous mets ensemble ici à l'EBTM pour vivre cette famille et nous te prions que nous puissions prendre à cœur ce matin cet appel de Jean de ne pas ressembler à quel, mais de nous aimer les uns les autres. Et que nous puissions déjà creuser nos propres pensées, les motivations, les mécanismes de notre cœur, qui fait que parfois nous sommes égoïstes, nous sommes jaloux, nous sommes envieux. Et ces choses, nous pouvons les mettre à mort, nous pouvons dominer sur ces choses en regardant Jésus à la croix, ce qu'il a fait pour nous, comment il a mis à mort notre péché, comment il nous a montré un Dieu de grâce, un Père si bon, comment ne pas aimer ses autres enfants. Nous pouvons encore aujourd'hui trouver motivation de faire les sacrifices nécessaires pour vivre pleinement cette vie d'Église et se donner pour le bien des autres. Qu'il en soit ainsi, comme nous l'avons chanté, pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.